RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour l'after, comme tous les lundis entre 22h et minuit, les avis tranchés pour revenir sur l'ensemble du week-end en France, à l'étranger, avec ce soir Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut les amis.
Et Pierre Ducrot, salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Semaine européenne, hein. Moi je suis toujours un peu excité le
belle
lundi
semaine,
avant une semaine européenne. Demi-finale à la Ligue des Champions, demain Liverpool-Roma, mercredi Bayern-Real et jeudi... Marseille-Salzbourg en demi-finale.
Grande semaine.
Franchement, on va se régaler.
Oui.
On se sera encore mieux la semaine prochaine avec les matchs retour.
T'es excité devant les semaines européennes, mais surtout les dernières semaines européennes. C'est encore plus excitant que les premières, parce que les premières, des fois...
Ah oui, c'est vrai. On va partir des quarts.
Ouais, voilà.
T'es d'accord?
Même en huitième, ça m'excite tout autant. Moi, j'aime bien.
T'as encore le PSG en huitième. Bien.
Non, mais de toute façon, t'as les soirées européennes. Évidemment qu'après, quand
j'aime
ça monte
les
en intensité,
un peu intense.
On a eu des saisons où même en quart cette année, ils ont été extraordinaires, mais on a eu des quarts où qui étaient bouclés, les matchs allés. Donc non, il y a pas de règle. Je veux dire, la semaine européenne, enfin en tout cas le lundi, je suis très excité à l'idée de suivre la semaine. Après, il se passe ce qui se passe.
Les quarts de finale qui sont bouclés au match aller, des fois, t'as les belles surprises de retour.
Ah bah là, cette année, c'était le cas. Les quarts étaient bouclés.
C'est vrai.
Alors messieurs, avis tranché à venir. Bon alors sur la semaine européenne évidemment, mais également sur la Ligue 1, puisque Pierre tu veux revenir sur la course au podium. Donc on y reviendra. Sur la Ligue 1, il y aura également les questions de l'after à ne pas rater. Et puis les drôles de dames. Je vous donne quelques avis tranchés à la volée.
Allez.
Luis Enrique, c'est l'un des pires choix possibles pour les Gunners.
Ouf.
Ça c'est l'avis tranché de Philippe Auclair.
Derrière Pardieu, il y avait marqué, non?
Il n'a pas parlé de Pardieu, mais bon, okay. je pense que c'est possible. Iniesta est le meilleur joueur espagnol de tous les temps. Pas mal aussi.
De tous les temps.
Pourquoi vous parlez de ça?
Je donne les avis tranchés de la deuxième.
Parce qu'il a arrêté.
Donc ça, ce sera celui de Fred.
Ah, c'est Fred qui dit ça.
Ah bah oui, c'est Fred, c'est pas David Lorto, oui, effectivement. Simone Rovera, Allegri a besoin d'une nouvelle aventure, de changer de club à la fin de la saison. Ouais. Et puis David Lorto nous dira que Neuer est quasiment oublié au Bayern.
Ah ouais?
Oublié au Bayern?
Mais oui.
Ouais.
Quelqu'un l'a fait oublier.
D'accord.
Donc ce sera tout à l'heure, ça c'est le programme de la deuxième heure. On commence par la Ligue 1, bien sûr, la Ligue 1 ou même donc la Coupe d'Europe jeudi avec un jingle Riolo.
Les mômes qui viennent, Barça, Real. Même les mômes de 9 ans, j'ai envie de les gifler. C'est dingue ça, ils font quoi les pères?
Moi j'aime bien la fin en fait.
C'est d'une violence. Fait marrer. C'est d'une violence quand même.
Non, c'est vrai.
Les
pères de footix, c'est pas normal.
Est-ce que quand t'es père
c'est de la responsabilité d'un père de pas avoir un enfant footix.
Quand t'es père de footix, tu es footix.
Oui, si le père est footix, comment il fait le môme? Le père, il s'en rend pas compte.
Non, des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu durs, c'est que justement, le père l'est pas, et puis,
je me souviens,
on rigolait, enfin, ça, je sais plus si c'était, est-ce que c'était, oui, c'était avec Flo Gautreau. Qui me disait, ben non, mais moi, mon fils, je crois que, son fils devait être pour le Real, un truc comme ça. Et il disait, mais pourquoi tu laisses faire ça? Il me dit, ah, mais non, mais mon fils, il fait ce qu'il veut et tout. Et donc, on avait cette différence-là.
Oui.
Je dis, mais il fait pas ce qu'il veut. Pourquoi tu veux qu'il veut? Mais qu'est-ce que tu vas le laisser être pour un club comme ça? Mais il dit, ça va. Bon, ok, Tours, c'est compliqué parce que c'est le club de la famille, mais bon, déjà, hein. Et s'il peut trouver un club en Ligue 1, là, pour que tu le laisses.
Voilà. Oui.
On avait cette discussion-là.
Alors, voilà. Tu sais que sur le sujet, il y en a un qui est très embêté, c'est Duga aussi. Parce que donc, Duga, il n'est pas spécialement supporter. Il aime bien Bordeaux, mais c'est pas un supporter acharné. Bon, mais il a quand même plein de convictions sur le foot et tout. Et notamment, il n'est pas fan de tout le cinéma autour de Zlatan. Des punchlines et tout.
Pareil,
voilà. Et le grand drame, c'est quand son fils arrive avec son téléphone et lui dit, ah, t'as vu Zlatan ce qu'il a dit et tout, t'as vu ce qu'il a fait, c'est exceptionnel.
Moi je recadre, mon fils avec Zlatan, c'était nickel. Dès qu'il est arrivé, tout de suite il a compris, en plus il a tout de suite compris quel le personnage, et direct il l'a pas aimé. J'ai même pas eu besoin de forcer. Je crois que c'était...
Je pense qu'il y a une différence d'âge. Toi c'est plus jeune. Donc tu pouvais encore un peu modeler, je pense.
Non, mais pour le coup, même
ado,
pas.
Pour le coup, même pas.
C'est qu'il avait détesté que Zlatan pique le numéro de Néné, qui était son joueur préféré.
Néné.
Ouais.
Ah oui, dis-donc.
Voilà. Donc il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un mec arrive comme ça, il pousse dehors un autre, c'est pas normal, il y a pas de respect, machin. Voilà.
Du coup, il aime pas Mbappé non plus.
Pourquoi?
Il a piqué le numéro de... Ah non, c'est Neymar, pardon. Neymar qui a piqué le numéro de Pastore.
Ouais, non, là, ça a posé moins de problèmes par rapport à Pastore.
Tiens, alors, voilà. Si vous qui nous écoutez ou nous regardez sur BFM Sport, vous avez des histoires comme ça à nous raconter, là, comme celle qu'on est en train de nous raconter, allez-y, achetez
ça. Ça, c'est des histoires de foot, mais on en revient après tout le temps, les mecs le prennent mal. Quand je dis, mais oui, oui, je suis désolé, j'insiste, il n'y a qu'en France que ça existe. Il n'y a qu'en France. Il n'y a pas de père de madrilène ou de
Portugais. Quand ils naissent, ils sont cartés.
Il y a pas d'enfants. Ils ont l'enfant en Italie qui supporte le Real ou le Barça.
Il y a un endroit en France quand même où ça existe moins, voire presque pas. Et ça va faire la transition avec ton avis tranché.
Marseille. Oui, c'est vrai.
Ah non, ces dernières années, t'envoies justement des survêtes des autres clubs. Ouais, et tout. Et je sais que ça emmerde les vieux Marseillais d'ailleurs.
Ah, si. Oui, il y a les survêtes.
Si. Et les chiffres de vente du maillot du PSG au Nike de Marseille sont très étonnants.
Je pense quand même qu'en termes de transmission
de paillasson.
Je sais pas, mais
je pense qu'en termes de transmission, quand même à Marseille.
Et je te dis quand même là-bas, il y a des soucis.
Oui, mais c'est quand même un modèle en France par rapport aux autres.
Paris, Marseille sont des modèles forts, mais Lyon aussi quand même.
Est-ce que oui, c'est ce que j'allais dire.
Attention, Lyon là-dessus ils sont là-dessus oui, justement. C'est un désavantage parce qu'il y a avantages et désavantages du côté un peu secte. Oui. Mais ils déconnent pas trop.
Saint-Étienne aussi, je pense que ceux qui sont à Saint-Étienne partent difficilement ailleurs, non?
Non, mais globalement, c'est vrai qu'on est quand même le pays où les mecs, ça s'envoie des maillots dans tous les sens et les mots, mais je suis pour un machin, hein. Et puis, c'est pénible ça. Bon, alors on y va.
Bah alors on y va, c'est ton avis tranché donc. Est-ce que tu veux que je donne quelques infos autour de jeudi et de ce Marseille-Salzbourg? Donc déjà, côté infirmerie, Sakai absent 3 semaines. Ça c'est vraiment côté marseillais donc. Entorse du ligament latéral du genou gauche. Par ailleurs, Camara très incertain pour cette rencontre. Il a fait quelques tours de terrain aujourd'hui. Rolando continue...
Le petit Camara?
Oui.
Oui, mais a priori, à partir du moment où Rolando aura mis son surpied, on n'a pas besoin de lui.
A priori. Mais
ça aurait été, moi, Rolando, ça aurait été bien d'avoir Camara.
La défense, à ma vie, il est debout. Rolando, Rami et Bounassar. Ouais. Tout ça, ça tient la route.
Même si Camara, moi, j'aurais préféré.
Rolando, attention. Rolando est aux soins. Il soigne son tendon d'Achille.
Il est sorti diminué.
Je pense qu'il jouera.
Ça ira?
Ouais, d'ici jeudi, ça va aller. Ouais. Bon. Pour un match comme ça, tu forces s'il faut forcer.
Oui, il va se faire infiltrer.
Bon. Et Mandanda, retour pour la finale éventuellement, mais pas avant, effectivement.
Oui, ça, on est pas là.
Par ailleurs, donc ça c'était pour l'infirmerie. Les infos engouement. Donc vous le savez, c'est plein, toutes les places sont parties hier, on aurait pu remplir 2 vélodromes. On s'attend à battre le record, donc, de 61 882 places, pour cette rencontre. 1500 supporters autrichiens. Et, le délai d'organisation étant un peu court et même à cause de mesures de sécurité à prendre, il n'y aura pas de fan zone, il n'y aura pas d'écran géant pour le match aller, peut-être et même probablement au retour et encore plus sûrement pour la finale sur la plage du Prado. Donc c'est la folie à Marseille, même les joueurs n'ont pas pu avoir autant de place qu'ils voulaient, enfin bref, il y a un vrai engouement et ça donc nourrit ton avis tranché.
Ouais, tiens, c'est marrant d'ailleurs parce que j'avais le France Football là que je montre et tout, j'aime bien la une, là, la fièvre du jeudi soir avec Ocampos et Thauvin. Et effectivement, ce qui se passe à l'OM est absolument fascinant en ce moment. C'est formidable. Et je veux mettre ça en perspective sur ce qui s'est passé tout au long de cette saison faite d'abord de bas, puis de haut et de très haut en ce moment pour l'OM. Et de remarques que moi-même j'ai pu relayer à un moment pour dire par exemple ou pour se lamenter quand le Vélodrome était pas plein au début de saison ou pas plein lors des matchs de phase de poule, carrément parfois désert. C'est vrai que pas mal de gens, et je le répète, j'ai même dû relayer cette idée-là, dire ouais mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi les gens vont pas au stade, enfin il y avait un peu des plaintes là-dessus. Eh bien, quand je vois l'engouement et ce qui est en train de se passer à Marseille maintenant, ce que j'ai envie de dire, et c'est mon avis tranché, c'est qu'en fait, l'engouement,
ça
se demande pas. Ça se demande pas. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. On est, bon, d'abord dans une époque où, et dans des grandes villes maintenant où il n'y a pas que le foot est concurrencé par d'autres activités, pour ceux qui sont pas à 100% passionnés mais qui le sont uniquement dans les grands moments, il y a de plus en plus de matchs. Ça coûte cher d'aller au stade et tout le monde peut pas toujours se payer une place. Et enfin, et c'est ça le cœur de mon avis tranché, moi je trouve ça bien l'histoire que l'OM a racontée et ce fil qui a été renoué. Oui, parce que le fil avec les gens de Marseille, il était un peu distendu parce que les dernières années, finalement, à part l'année de Bielsa où tout le monde a kiffé parce qu'il s'est passé quelque chose, et ben c'est vrai qu'après tout, il n'y a pas genre on appuie sur un bouton. Hey, vous venez au stade les gars parce qu'on est l'OM ou vous venez au stade parce qu'on est PSG et tout. Non les gars, oh. Le mec, tu dois mériter. Tu dois également... J'en ai marre, en fait, qu'on dise aux supporters ce qu'ils doivent faire et aux gens ce qu'ils doivent penser et regarder. Mais toi qui es sur le terrain, est-ce que tu fais, et ça vaut pour toutes les équipes de Ligue 1, moi, aujourd'hui, si je suis bordelais, la Matmut, tout le temps à moitié vide et tout, je dis, mais hey, les gars, vous voyez ce que vous proposez sur le terrain, là? Vous jouez un coup sur deux, si c'est le PSG, ça joue, si c'est Guingamp, vous bougez pas le cul. C'est quoi? C'est automatique? Automatique, vous devez venir au stade? Vous venez venir nous supporter et puis chanter en plus et puis fort si c'est possible? Non, ça se mérite. Et quand c'est mérité, eh bien on a que, ah bah tiens, bizarrement, même moi, j'ai dit à un moment, bah le Vélodrome il est trop grand. Bon, ça enlève pas hein, que effectivement
pour le quotidien,
à 50 pour le quotidien, ça aurait peut-être été, bon bref, peu importe, il est plus grand. Eh bah tiens, bah ouais, comme par hasard, on aurait pu en remplir deux. Ben ouais, ben ça se mérite.
Et quand tu dis ça se mérite, ça se mérite, Daniel, c'est quoi? C'est
l'attitude sur le terrain. Après,
parce que Marseille cette année, ils ont tout le temps eu. On peut leur reprocher d'autres choses.
Ben oui,
mais ils ont tout le temps eu cette bonne attitude.
Ben bien sûr.
Ouais, mais ça en a plus, pas été pourtant tout le temps.
Mais c'est monté petit à petit. Il y a eu les victoires. Il y a eu l'aventure en championnat. Au début, ça tâtonnait. Les matchs, même si Marseille restait dans le haut, c'était pas toujours fantastique.
Cet après-midi, Maxime Lopez dans Team Dugan nous rappelait l'enchaînement Rennes, la défaite du début.
Après
le match d'Europa League, il y a 2000 personnes au Vélodrome.
Mais oui, c'était dur.
Il y avait vraiment
Moi, je trouve ça bien.
2000 personnes.
Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que c'est une conquête, comme une conquête amoureuse.
Ouais, ouais.
Et aujourd'hui, l'idylle, elle est renouée. Et peut-être, imaginons que l'OM, je vais pas leur porter la poisse, mais n'aille pas en Ligue des Champions, mais rejoue l'Europa League. Et ils se retrouvent en phase de poule. Eh bien, peut-être qu'on n'aura pas 2000 ou 3000, mais qu'avec l'aventure qui vient se passer, t'auras le double.
Ouais.
T'auras en tout cas plus. Et tu regarderas les chiffres et tu te diras, ah ben, il y a quand même plus. Parce que le fil, il est renoué. L'histoire d'amour, elle est vraiment repartie taquée. Alors que pendant un moment, ben voilà. Et les Marseillais, ben quoi, c'est les vaches à lait, tu dis, ben venez, il faut venir parce que vous êtes un public parmi les plus célèbres de France. Mais non. J'aime le fait de mériter, de faire venir. Et tout ce qui s'est passé dans cette Coupe d'Europe, ce qu'il y a là, la une de France Foot, l'engouement, le fait qu'on ait même pensé à faire une fan zone, c'est quand même, quand même, hein, qu'on puisse remplir de Vélodrome. Eh ben, je trouve ça formidable. Alors, et qu'on arrête de dire aux supporters ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent venir, de quelle façon ils doivent chanter, ce qu'ils doivent. Non, voilà, tu dois conquérir. Et c'est le terrain.
Est-ce le que terrain dans la prolongation de ton avis tranché, ça va en opposition de ce qui s'est passé au Parc pour le match face au Real, où là justement, on a tenté de forcer cette ferveur, alors que rien n'est venu du terrain à ce moment-là, et ça a fait un flop. Ou est-ce que les deux cas n'ont rien à voir?
C'est que ça s'est pas rencontré, oui, forcément. Quand il se passe rien sur le terrain, en vrai, tu peux faire ce que tu veux en tribune.
Ouais, de toute façon,
c'est un pétard mouillé.
Non, mais le Parc, on est dans un... De toute façon, ça aurait été plein contre le Real. Ce qu'ils ont voulu faire avec le coup de com, c'est en gros qu'il y ait grosse ambiance.
Ils ont voulu faire ce que le Real a fait à l'aller ou ce que le Real a fait
voilà,
ou ce que
genre
Barça
on fait grosse ambiance, mais de toute façon sans ça,
donc c'était un peu forcé quoi.
Ouais, mais ça aurait marché. De toute façon, il y aurait eu grosse ambiance encore. Mais franchement, les grandes soirées européennes. Mais et je dis ça, c'est quasi partout. Hein, l'ambiance, elle monte aussi crescendo.
Au fur et à mesure, bien sûr.
Ok, tu peux avoir le feu dès le départ, dès la première minute, ça arrive, c'est assez rare, mais après ça peut s'éteindre un peu si ça se passe pas très bien. Il peut y avoir le stress qui fait que tu n'es plus dans la grande folie de l'encouragement. Mais c'est à l'équipe aussi de faire monter tout ça. C'est à l'équipe. Pourquoi parfois on voit des joueurs qui font au public, vas-y, encourage et tout. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est le lien qu'il y a entre les joueurs et les supporters qui doit faire que tu arrives à cette ferveur. Et donc, je ne dirai plus l'année prochaine, si je le fais, tapez-moi sur les doigts. Ouais, pourquoi les mecs ils viennent pas? Pourquoi il n'y a pas l'ambiance? Pourquoi il n'y a pas ceci? Bah, il faut peut-être se le demander pourquoi. Et souvent, le pourquoi.
Alors, tu sais quoi?
C'est parce que les mecs ont pas, tu vois, Bordeaux, on dit toujours, ouais, mais Bordeaux, ça se remplit. Quand ça se passe bien, bah ouais, ok, très bien, ben d'accord.
Quand il y a un bon film, la salle est pleine. Quand le film est pas bon,
voilà. Chaque public a son.
Parce que t'as des clubs à l'étranger où c'est plein tout le temps, même quand ça perd.
Oui, c'est sûr.
Ouais, mais tu sais, regarde, si tu regardes même en Italie, même.
Non, en Angleterre.
Bah regarde Arsenal, ça s'est vidé.
Arsenal, il y a moins. Les structures sociologiques sont pas exactement les mêmes, mais en tout cas, même pour l'ambiance. Regarde, Anfield, on disait toujours Anfield en championnat. Et
oui, sur l'ambiance, oui.
Coupe d'Europe, tiens, comme par hasard, c'est reparti et tout. C'est aussi l'événement. Il faut voir qu'on est quand même à une époque où Il y a une énorme banalisation d'image de foot.
Il y a peu de matchs où il y a de l'émotion.
Il y en a mille. L'émotion, il faut aller la chercher dans une saison.
C'est le gratin.
Fais le bilan avec supporters de chaque club. D'ailleurs, tiens, on devrait faire ça un soir, dans les soirées un peu mortes du mois de mai avant la Coupe du Monde.
Venez
raconter, supporters de un tel équipe. Faites-nous la liste du nombre de matchs où vous avez vibré à émotion. On fait la liste ensemble et après on fera le club qui a eu le plus de moments
Après c'est un peu subjectif quand même.
Bah, c'est parce que c'est subjectif qu'on demandera aux supporters.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que
nous à côté on pourra en parler avec eux. Mais eux tu verras que dans cette banalisation du match de foot, il y en a pas tant que ça. Il y a plein de journées de championnat où tu enregistres le résultat parce que t'es dans la course à l'Europe.
T'auras deux matchs qui sortiront quoi. C'est pour ça que je trouve dommage que dimanche prochain on nous impose un PSG Guingamp le dimanche soir à 21h au lieu d'un par exemple Lille-Metz où je pense qu'il va y avoir cette émotion, cet enjeu et cette tension.
Ouais, mais le problème, Pierre, c'est que quand t'es directeur d'antenne d'une chaîne de télé, tu veux faire de l'audience. Et avec Lille-Metz, t'auras rien.
Ouais, mais avec PSG Guingamp, tu fais de l'audience.
Oui.
Les deux équipes ont pas grand chose à jouer.
Ouais, mais t'as plus de supporters, de téléspectateurs qui vont suivre le PSG.
Le PSG fait les meilleures audiences à la télé.
Ouais, mais c'est dommage, tu vois. C'est dommage,
derrière, t'as Marseille. Donc c'est plutôt le match de l'OM qu'il fallait mettre.
Ah oui, c'est ça.
Le match de l'OM.
Parce que
j'imagine qu'ils vont jouer dimanche 17h.
Mais t'imagines ce match-là, Lille-Metz. Il est terrible à suivre. Moi, je vais regarder Lille-Metz.
Non, mais que tu le regardes dimanche,
c'est sur ma tablette pendant que je commente.
Là, toi, tu parles d'autre chose. Tu parles
de l'émotion, de l'enjeu, de l'intensité qu'il va y avoir.
Moi, je mets Lyon-Nantes même. C'est incroyable, non?
Ouais, mais l'OM, ils sont obligés de jouer dimanche par rapport à la Coupe d'Europe.
Et personne ne met Lille-Metz.
Non, à la télé, non. Mais attends, mais là, tu es sur une autre problématique. Tu es sur la problématique de l'audience.
Ouais,
si t'es directeur d'antenne, tu veux pas faire une audience pourrie. On est obligé de le comprendre.
Bon, bref.
Bref,
j'ai fini.
Tu sais quand est-ce que j'ai pensé à ça? J'ai pensé ce week-end à ça quand j'ai vu l'Alliance Riviera à Nice, qui était très peu garni pour le match. Et je me suis dit, tu vois, Nice, c'est un club qui joue la cinquième place là contre Montpellier, un concurrent direct.
L'année dernière, il jouait le podium, c'était pas plein non plus.
C'est ce que je te dis.
Contrairement à ce qu'on pense, moi j'ai toujours.
Mais pourtant, il y a eu du beau football et tout,
mais il y a pas grand-chose.
Bah ouais, il y a eu du beau football et pourtant c'est pas plein. Donc il y a peut-être pas tout le temps que le mérite. Il y a aussi peut-être un autre problème en France qui est que les stades effectivement même quand il y a ce qu'il faut sur le terrain
tenons-nous-en au stade où traditionnellement il peut y avoir autre exemple c'est Nantes pendant des années un peu mort en plus il y avait des brouilles entre supporters le président il y avait pas mal d'incompréhensions et tout et ce qui s'est passé l'année dernière ne serait-ce qu'au moment où Conte Sessao était arrivé ça a continué cette année où on a eu plein de fois des belles ambiances. Nantes c'est franchement un stade où il se passe toujours quelque chose, c'est très agréable à regarder et tout ça. Bah normal. Ils ont retrouvé une équipe qui se défend sur le terrain.
Tu vas dire aux gens
"Eh, venez au stade, j'ai pas envie d'aller voir cette tripotée de chefs qui court pas." Bah attends, mais je comprends. Il faut qu'on comprenne ça aussi. C'est pas un bouton automatique, on demande le soutien aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, messieurs, sur ce sujet, on va accueillir Kevin qui nous rejoint tout de suite au 32-16. Salut Kevin.
Bonsoir l'after.
Salut Kevin.
Bonsoir Kevin. Alors, t'as entendu la vie tranchée de Daniel autour de la ferveur, autour de l'engouement qui ne s'achète pas et qui ne se commande pas. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, tout à fait, j'ai entendu la vie de Daniel. Ça tombe bien en plus que j'en parle avec Daniel parce que je pense qu'avec le nom de famille qu'il a, il a forcément des petites consonances italiennes et puis il comprendra peut-être ce que je veux dire. En l'occurrence, en Italie, on a quand même une petite tradition. Une tradition, c'est que parfois les petits clubs comme il peut y avoir Sienne ou Bergame. Bon, Bergame n'est pas plus vraiment un petit club, mais Paris ou Benevento. Bon, c'est des clubs, on va pas se mentir, qui gagneront probablement jamais la Serie A, du moins pas à court terme. Mais les supporters peuvent quand même supporter des gros clubs. Autrement dit, le Milan, l'Inter ou la Juve. Je m'explique, moi étant gamin, ma famille est originaire de Naples, voilà. Et Naples, malheureusement, quand j'étais gamin, étant donné que je suis pas très vieux, ils ont commencé à couler administrativement. Et j'ai pas pu les suivre autant que les belles années de Maradona et tout ce que ça engendrait. Et en Italie, il y a une certaine tradition comme quoi on supporte le club en fait de sa région, mais on supporte entre guillemets aussi un des trois gros clubs que sont la Juve, le Milan ou l'Inter. Autrement dit, moi, je suis autant supporter du Napoli par la région, mais aussi du Milan que quand j'étais gamin. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème pour ça en Italie. Il n'y a pas un problème avec supporter de Sienne.
Pour autant que t'es un footixo, quoi.
C'est ce qui est. Je suis content que ce soit la conclusion.
Bah oui, ça après on le sait ça Daniel, sur l'Italie effectivement, ouais, c'est une particularité, c'est culturel, ouais. Mais en fait chacun a sa particularité, mais en France on a du mal à la définir clairement, quoi. On a l'impression qu'entre chaque club les choses
varient. On est un peu sorti du
oui, c'est un autre sujet, oui, ça c'est valable aussi au Portugal, je crois, ce que nous dit Kevin,
c'est
aussi valable pour le Portugal, mais c'est un autre sujet, ouais, effectivement.
Voilà. Bon, en tout cas, l'éclairage était intéressant. Merci, Kevin. À bientôt dans l'After.
Merci à vous. Passez une bonne soirée. Bon courage et merci pour l'émission.
Bah, avec plaisir. Merci. N'hésite pas, Kevin. 32-16. Et puis vous, sur le hashtag RMC Live, réagissez à l'avis de Daniel. On fait un tour de nos directs. Le match de Ligue 2 du soir. C'est un match avancé, hein. Cette fois, d'habitude, c'est un match décalé. Mais là, c'est un match avancé. Ça se passe en Corse entre l'AC Ajaccio et le RC Lens. Mickaël Andréani. Salut, Mickaël.
Salut Jean-Louis, salut à tous. 1-0 pour l'AC Ajaccio face à Lens après 81 minutes de jeu. C'est Kamali qui avait ouvert le score à la 32e minute. Les Ajacciens qui gèrent plutôt bien leur avantage.
Et virtuellement, Ajaccio repasse à la deuxième place donc, et montré directement en Ligue 1, même si Nîmes a un match en retard. Hein. Nîmes jouera donc demain. Ce sera contre Lorient à domicile donc pour les Nîmois. Autre direct du lundi soir, c'est le basket avec la Jeep Elite. Bourg-en-Bresse est opposé à Chalon-sur- et pour l'instant, Bourg-en-Bresse est devant et mène 79-75 et même... oui, c'est ça. Dans un instant, avis tranché de Pierre Ducrot sur l'AS Monaco, sur la course au podium. Restez avec nous dans l'After sur RMC, sur BFM Sport. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'After Foot, Jean-Louis Tour.
L'after du lundi avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot, les drôles de dames, les questions de l'after comme tous les lundis. L'avis tranché de Pierre Ducrot. Avant cela, quelques réactions à ton avis, Daniel, sur le hashtag RMC Live. Je vais faire ça de façon équilibrée. Un pour Eric Le Saube qui nous dit, il parle très bien, Riolo. Je suis 100% d'accord avec lui. Et Kezako qui nous dit, dans son avis, Daniel Riolo encourage en fait à la foutixerie. Il doit y avoir du monde au stade, que s'il y a des résultats, ce sont donc des spectateurs et pas des supporters.
Pas du tout, je pense qu'il a rien compris. J'ai dit avant tout, il faut que l'attitude soit bonne, que le comportement de l'équipe donne envie de les pousser. Quand j'ai parlé de Nantes, que ça si... Enfin bon, ils jouent plus leur depuis le long jeu.
Ils n'ont pas été champions.
Ils n'ont pas... Voilà, non. C'est l'attitude qui fait que, en fait, il faut donner envie. Il faut juste donner envie. J'ai fait un parallèle, une sorte de conquête amoureuse. Voilà.
On parle pas du résultat.
Tu dois avoir envie de venir.
Bon, le résultat aide un peu quand même à un moment donné.
Et après, le résultat. Oui, mais deuxième.
Tu vois, je me souviens quand le PSG joue le maintien, on loue les 40 000 personnes au parc à chaque fois, même quand le club est en difficulté. Rien sur le terrain, justement, pour s'enflammer.
Eh ben, il y avait Jérôme Bretagne quand même.
Mais est-ce que.
Non, pas cette époque-là.
Déjà, tu laisses libre les gens de venir s'ils ont envie de venir et tout, et tu les forces pas. Je pense que c'était ma première idée, c'était ça. Donc, après, si des gens veulent forcer, ou s'ils veulent venir. Après, que des groupes de supporters viennent, quoi qu'il en soit, très bien, mais moi je parle du reste de l'engouement. Faut arrêter de penser qu'il n'y a que les groupes de supporters qui sont légitimes et qui ont le droit de soutenir un club. Les plus grandes histoires dans les Coupes d'Europe ou dans les clubs ou dans ce qui se passe, c'est pas que avec les groupes de supporters. C'est quand tu as l'unisson avec tout le stade.
Oui,
quand c'est toute une ville, quand c'est tout un stade, tu fais pas simplement avec les virages.
Ça c'est valable. Je suis d'accord avec toi, mais c'est valable pour certains matchs où il se passe quelque chose de très spécial.
Donc après le PSG en 2008, à un moment effectivement les supporters ont pas lâché, ils sont venus, mais ça c'est très bien. Évidemment,
en fait, c'est un tout. Voilà. Parce que c'est ce dont tu parles. Exactement. Là, effectivement,
et c'est surtout qu'on oblige personne.
C'est les plus beaux moments sur certains matchs, certains grands matchs, quand il y a un scénario, tout est réuni. Après, sur la longueur, je pense que ces groupes de supporters sont très très importants parce que c'est la base.
C'est on n'oblige personne. Tout le monde doit être libre.
Bah oui.
Mais on peut pas supporter deux clubs.
Quand même.
Il y a deux trois limites.
Sauf les pays où c'est culturellement comme ça. Effectivement, ça semble difficile.
Évidemment, en Espagne aussi, ça se fait beaucoup. Mais donc, souvent, on est supporter d'un club et du Real ou du Barça.
Ah, je pense que ça n'est pas en Espagne, tu vois.
Oui, c'est un peu vrai en Espagne. Mais alors, faut vraiment que ce soit un petit club, hein, parce que t'es pas supporter de Séville et du Real. T'es pas supporter de Valence et du Real. Donc, faut pas raconter de conneries non plus, quoi. Ce qui
est vrai aussi sur l'Espagne, c'est que ce que tu disais sur la première impulsion doit venir du terrain, c'est typiquement public espagnol ça. Le Real et le Barça ne s'enflammeront jamais, même dans un gros match de Coupe d'Europe, s'il n'y a pas une petite étincelle, un petit truc qui vient du terrain à la base.
Bien sûr, faut arrêter. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? C'est sur commande. Le supporter, c'est le pigeon à qui on dit ce qu'il doit faire. Non,
la petite étincelle, c'est pour ça que nous on réclame des fugies. Des fumis. Voilà, petite étincelle.
C'est ça. Mais fumis sont interdits. Hein. On n'est pas là pour faire la promotion de choses interdites. Hein. Attention, Pierre.
C'est interdit dans les stades.
En dehors? Tu fais souvent un fumis chez toi, tranquille? À la maison?
Régulièrement, dans le salon.
Ça doit être sympa. Allez, on y va, d'ailleurs, Pierre,
avec Daniel, la conquête amoureuse.
Ah oui?
Bah oui, je prends mon fumis et puis je conquis.
Tu l'appelles comme ça? Allez, on y va, jingle du croc.
Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion, quoi.
Et la Pierre qui est spécialiste en places européennes, parce que t'avais annoncé la remontée de Nice au classement, Nice qui est cinquième. Voilà. Et là, tu t'empares maintenant du dossier podium, et tu vas nous dire que Monaco va finir dans les trois premiers.
Exactement. Je vais faire ce que Daniel adore. Sortir la boule de cristal et lire dedans ou vous dire ce que je vois dedans, c'est l'ASM deuxième à la fin de saison.
Voilà. Tu vois, je crois que je commence à connaître Daniel. Je pense qu'ils
vont resserrer les boulons.
Moi, je pense que la boule de cristal, quand tu as raison, c'est parfait. Bon, c'est après, ça. C'est quand tu as tort.
C'est pour ça qu'en une saison avec vous, messieurs, je l'ai sorti une fois pour Nice.
Ouais, c'est vrai.
Et là, la deuxième fois.
C'est très bien.
Donc Monaco sur le podium, pourquoi?
Effectivement.
On va t'écouter, alors.
Faut deux, trois arguments, quand même.
Ouais, alors voilà, non, plus sérieusement, effectivement, j'ai bien entendu pas de boule de cristal. Nice, je m'étais d'ailleurs appuyé sur, mon ressenti et mes connaissances de ce club-là. Ça aurait pu ne pas marcher, Tout est possible, mais ça a marché. L'ASM, j'ai aussi envie de m'appuyer sur certaines choses. Et ce qui m'a fait penser moi aussi à cet avis, c'est ce qu'on avait commencé à évoquer Daniel hier, quand on disait qu'il allait falloir arrêter un petit peu à un moment donné, nous consultants, journalistes, etc., de juger sur 3-4 rencontres la saison complète d'une équipe, de dire au mois d'octobre cette équipe a raté 3-4 matchs, ça va être une saison ceci, ça va être une saison cela, il y a six qui marchent pas. C'est exactement, j'ai l'impression en tout cas que c'est exactement ce qu'on fait en ce moment avec l'ASM. En se basant sur les deux derniers matchs, celui du PSG, qui est pourtant, et on l'a souvent dit nous aussi, et moi je suis assez d'accord avec ça, qui est tout le temps à mettre entre parenthèses, entre guillemets, pour une équipe en Ligue 1 quand on affronte le PSG, et derrière effectivement l'enchaînement contre Guingamp où ça a été un très mauvais match des Monégasques. Sauf que en s'appuyant et j'entends quasiment tout le monde, c'est presque du 100%, pas tout à fait, mais quasiment du 100%. Monaco va finir troisième, voire même quatrième. C'est sûr.
On a une sorte de sentiment avec ce qui s'est passé d'un écroulement terrible. Exactement. Qui doit devenir.
C'est sûr. Ouais. Sauf que quand tu regardes un peu la saison de l'ASM, déjà tu moi j'ai regardé les derniers matchs en Ligue 1 sur 17 matchs, c'est 13 victoires et 4 nuls. Avant les deux défaites, hein, bien entendu. C'est quand même pas dégoûtant comme parcours. L'ASM aujourd'hui, c'est son meilleur total de points de son histoire après la 34e journée là. C'est pas une équipe de branquignoles. L'ASM aujourd'hui, c'est eux qui ont un point d'avance. L'ASM a un coach aussi que j'imagine complètement capable moi après Guingamp, peut-être pas après le PSG parce que même pour lui, je pense que c'est un match qu'il a mis entre parenthèses, même s'il y a peut-être des attitudes ou des choses qui lui ont pas plu, mais j'imagine complètement après Guingamp avoir une autre attitude envers ses joueurs qu'après le match du PSG. Remettre certains à leur place, recadrer tout ça. Il y a aussi dans ce groupe-là certains joueurs, et ça c'est une fois de plus, enfin c'est des arguments qui pour moi me paraissent importants, qui ont quelques petites choses à jouer en fin de saison. Lemar, un Sidibé, un
Fabinho.
Un Lopez, un Fabinho, un Jemerson également que j'avais noté. C'est des joueurs qui ont plutôt intérêt à réussir et à faire quatre gros matchs en fin de saison, une très bonne fin de saison pour eux. Il y a aussi des vieux briscards qui vont éviter de se priver alors qu'ils ont tout en main d'une participation encore à une Ligue des Champions. Ça compte, l'air de rien, c'est eux qui vont aller tirer les jeunes vers le haut. Bref, le petit point d'avance que possède Monaco, plus des vieux briscards qui vont avoir très envie que ça se passe mieux que contre Guingamp, des un peu plus jeunes mais qui ont notamment des places en sélection à jouer, un coach que j'imagine parfaitement, c'est même pas j'imagine, j'en suis sûr, va rentrer dans la gueule, excusez-moi de l'expression, mais de certains pour les faire réagir tout de suite, et qui, si ça se passe pas bien, sera lui capable de sanctionner même après une demi-heure, je pense, de jeu au prochain match. Tout ça me fait dire, alors en plus À côté de ça, il y a aussi, on va le rappeler quand même, l'OM et l'OL sont pas obligés de faire un 4 sur 4 dans leurs 4 derniers matchs. Hein. On peut tout à fait imaginer que l'OM, malheureusement pour eux, avec la débauche d'énergie qui va être cette double confrontation en Europa League, puisse à un moment donné lâcher quelques points en Ligue 1. On peut imaginer que l'OL, même si ils sont sur un rythme d'enfer en ce moment, puisse lâcher des points contre Nantes ou contre Nice, par exemple. C'est pas fou de l'imaginer.
C'est vrai que t'as aussi le calendrier qui va dans ton sens, qui est plutôt favorable à Monaco.
Plutôt favorable à l'ASM.
Y a pas un Monaco Saint-Etienne?
Si, mais il y a aussi Monaco Amiens, Caen Monaco, et 3 Monaco. Et Saint-Etienne, c'est l'avant-dernière journée.
Mais ça, j'ai presque envie de dire que le calendrier, c'est presque c'est mon dernier argument, quoi.
Ouais,
c'est
parce que je vais même pas le citer si j'allais.
Je pense que t'as raison. Ouais, voilà, parce que ces matchs-là, il peut tout se passer contre un club qui joue sa survie ou contre un club qui joue l'Europe, ou même contre un club dans le ventre mou et qui va lâcher les chevaux et qui va jouer en total. Voilà, on sait. En fin de saison, il y a toujours des résultats un peu bizarres. Mais les vrais arguments, c'est ça. C'est des vieux briscards qui vont reprendre en main le groupe. C'est un coach qui va pas laisser faire comme ça. C'est des jeunes qui ont des choses à jouer. Et c'est un point d'avance, et ce point va être important, l'air de rien.
Daniel, qu'est-ce que t'en penses?
J'avoue que les rebondissements qu'on a eu cette saison pour les trois équipes qui se disputent le podium et maintenant la deuxième place me laisse complètement perplexe. J'ai même pas envie
d'essayer de deviner
ce qui va se passer. On est tellement là maintenant dans la surprise. Avec, je le répète, les saisons qu'ont menées des équipes comme Marseille, Lyon et Monaco, que
ouais, elles ont toutes fait des séries, des périodes des hauts et des bas.
Là, on a le sentiment que Lyon
est sur un nuage.
Tous les matchs. Là, maintenant, ils vont gagner tous les matchs. Que ça va jouer avec la différence de but avec l'OM. Pour ce qui est de la débauche d'énergie, je sais pas. Pour l'instant, ils arrivent à plutôt bien gérer, alors qu'on craignait que ce soit pire. Et Monaco, Je crois que ça passe par, tu l'as dit, la façon dont les dirigeants et Jardim vont resserrer les boulons pour dire aux mecs, les gars, là, ok, il y en a beaucoup qui pensent à se barrer, il y en a beaucoup qui sont déjà plus ici avec la tête, il y a des mecs qui ont disparu, blessure, pas blessure, à un moment, la bonne période, elle avait coïncidé aussi avec la forme de Keita Baldé, qu'on voit plus.
La forme de Jovetic aussi. Pendant que Falcao était blessé.
Ouais, Jovetic, même si Falcao c'était par bribes, il a quand même été important.
Quand Falcao était blessé, il était bien.
J'aurais pu rajouter les dirigeants, t'as raison.
Lemar existe plus, je trouve.
Il est parti.
Et pourtant, il a un intérêt à réexister. Là.
T'as parlé de Jardim, mais vraiment là, je pense que quand il reste 4 matchs et que effectivement pour Monaco dans son plan économique, il faut être en Ligue des Champions, je pense qu'il va devoir y avoir une intervention de quelqu'un pour dire les gars, là maintenant, le point c'est important, point d'avance, à 4 journées de la fin, ça reste quand même, mais va falloir vous bouger le cul parce que cette deuxième place, on peut pas laisser passer quoi.
Allez, je prends un risque. Moi, je vous dis que Monaco termine avec 4 points d'avance.
Ah oui, carrément, d'accord. Ouais. Alors, avant de donner la parole à Yann au 32-16, c'est terminé, messieurs, en Corse, en Ligue 2.
S'il vous plaît, messieurs, c'est terminé
à Ajaccio. Ajaccio-Lens, Mickaël Andréani.
Avec la victoire de la Ajaccio 2-0 face au Racing Club de Lens, but de Nouri à quelques secondes de la fin. Et c'est l'information principale de la soirée. La CA qui grimpe à la deuxième place avec 66 points, tandis que Nîmes joue demain face à Lorient. Un point donc de plus pour les ACistes face au Croco. La pression est mise sur les Nîmois.
Très bien, merci Mickaël. Terminé au basket, victoire de Bourg-en-Bresse 96-90 face à Chalon-sur-Saône en Jeep Elite. Écoute-moi Pierre.
Oui Jean-Louis.
C'est un truc très subjectif, mais
ton ressenti.
J'aimerais bien que tu aies tort et que Monaco n'aille pas en Ligue des Champions.
Voilà. Pourquoi?
Je préférerais avoir Marseille et Lyon. Je préférerais avoir des clubs
c'est
populaires.
Ton petit goût à toi, c'est pour d'autres raisons. Ouais, c'est...
Alors, on peut avoir des opinions, des envies.
Ouais, mais c'est pas sur le plan sportif, c'est sur le plan de effectivement de l'engouement du.
Et en fait,
ce que représentent ces clubs.
Oui, exactement. La ferveur, l'engouement, etc. C'est ce qui se dégage des matchs européens de ces équipes. Et je trouve que Monaco, même s'ils font demi-finale de Ligue des Champions. c'est très bien sportivement ce qu'ils font. Ils arrivent à accomplir des choses magnifiques.
Et depuis un petit moment, maintenant.
Il me manque toujours quelque chose. Il me manque une passion, un truc qui empêche, par exemple, la décompression du moment, là. Tu vois, t'as l'impression que là, ils ont perdu deux matchs. Tout le monde s'en fout à moitié, à part Jardim. Même les joueurs, certains sont déjà partis parce que dans ce projet-là, ils savent qu'ils sont là pour quelques années.
Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est l'ADN. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est l'ADN de ce club et tu peux, enfin, on est obligé de respecter ça. Ce club est comme ça et s'ils sont devant les autres, c'est qu'ils le méritent aussi, quoi. Et s'ils sont devant les autres depuis un certain nombre d'années maintenant.
Non, mais sportivement.
Parce que depuis trois ans, Monaco est devant les autres.
Non, mais sportivement, il n'y a pas grand chose à dire, mais bon, ça me fait pas kiffer, quoi. Bon. Prenons la vie d'Yann qui nous rejoint donc au 32-16. Salut Yann.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Daniel, bonsoir Pierre.
Salut, bonsoir. Qu'est-ce que tu penses de la vie de Pierre?
Alors, moi je suis en désaccord total avec Pierre. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, et pour un peu jouer avec ce qui se fait en ce moment, je pense que Monaco ne sera pas en POG Ligue des Champions.
Oh, arrêtons un peu avec ça Yann. On va pas se faire avoir nous aussi. Hein.
C'est quoi le truc?
Mais dis de mettre POG devant tout comme POG série, la POG série, le POG machin, la POG interne.
Je suis un peu comme Daniel.
On aura une seconde pour parler de POGBA hier soir en CFC, c'était quelque chose.
Je suis un peu comme Daniel.
Très intéressant.
Je te rajoute une question de l'after là-dessus. Vas-y Yann.
Oui, vas-y Yann.
Donc je suis un peu comme Daniel sur ce point notamment. C'est-à-dire que je trouve que bon, sur POGBA on en fait beaucoup. Pour revenir sur le sujet en se basant sur les prochains matchs, pourquoi je pense donc Monaco ne sera pas en Ligue des Champions, parce que si on regarde les calendriers des adversaires, ben on voit que Lyon, il leur reste 3 matchs à domicile, qui dégagent une grosse impression.
C'est Nantes, 3, Nice à domicile et déplacement à Strasbourg.
Oui, voilà, malgré quelques certes faux pas, on a vu surtout façon mal classée cette saison en Ligue 1, mais voilà, ils vont jouer Nantes qui n'a plus rien à jouer, 3... Ils jouent certes le maintien, mais Strasbourg, ils vont aller à Strasbourg. Strasbourg aura peut-être d'ici là assuré déjà son maintien et ils recevront.
Yann, il faut toujours se méfier de cette équipe jouera ça, cette équipe fera ça, cette équipe. Attends, les fins de saison nous réservent toujours beaucoup de surprises.
Daniel, après moi, voilà, comme j'ai dit au standard, je suis supporter d'aucune des trois équipes. Après l'OM par exemple, c'est acquis tout double. C'est-à-dire qu'autant ils peuvent faire une fin de saison de rêve et aller en finale de Ligue Europa et se qualifier pour la Ligue des Champions, soit ils peuvent tout perdre, potentiellement. Avec ils vont jouer 7 matchs alors que les deux autres n'en jouent plus que 4 en même pas un mois.
Enfin 7, c'est ce qu'ils espèrent, hein, parce que ça peut être 6.
Donc, et après,
6 ce sera, ouais.
Et après, Daniel, quand tu regardes, c'est-à-dire que, par exemple, pour revenir sur Marseille, au regard de leur effectif, sans grands attaquants, Germain, Mitroglou, qui font pas une saison de rêve, ils sont quand même, avec la défaite de Guingamp, ils sont revenus à un point de la deuxième place. Donc, tout est possible, j'ai envie de dire.
Oui, non, mais Yann, de toute manière, tout est possible. Ça, je suis entièrement d'accord et je prétends pas avoir la vérité. Hein. Mais si tu veux sur le calendrier, j'aurais même pas dû en parler effectivement parce que c'est pour moi pas un bon argument. Sur le reste, je reconnais l'énergie en ce moment de l'OL, de Lyon, qui est sans doute la meilleure des trois. Je reconnais la constance dans l'état d'esprit et l'envie de vaincre de l'OM. J'ai l'impression qu'on oublie aussi un petit peu parce que il y a eu ces deux accros, et c'était là le cœur de mon avis tranché, en fait. On oublie un petit peu la régularité qu'a été celle de Monaco cette saison, qui est juste énorme. Et je ne vois pas, moi, Monaco, en fait, s'écrouler sur les 4 derniers matchs.
Ils ont eu un trou d'air fin de l'automne. Hein.
Mm-hmm. Ouais, ils en ont eu un, mais c'est une saison exceptionnelle qu'ils font aussi. Hein.
Attends, une saison exceptionnelle, ils se sont fait tarter en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions, c'est autre chose.
Ils ont très vite complètement déblayé leur calendrier. Ils ont eu un trou d'air début d'hiver. Et 2018, après, c'est vrai qu'ils ont remis la machine. Alors, ça reste, dit Jean-Louis.
Ça reste une très bonne saison de Ligue 1.
Dans la plus grande des discrétions, en tranquillité,
ça fait partie de leur club, ça.
Oui. Et d'ailleurs, parfois, c'est aussi à double tranchant, au revers de la médaille. C'est que, sur une fin de saison comme ça, s'il faut mettre un coup de fouet, si t'as pas le patron qui descend pour dire, ah, les gars, qu'est-ce qui se passe? On s'endort, il faut finir la saison comme il faut et aller chercher cette deuxième place.
Mais c'est ce qui va arriver là, je pense.
Oui, évidemment que ça va arriver. Je pense que
c'est prévu.
Vassiliev va y aller et va serrer, mais ça va pas venir d'ailleurs, quoi.
Après, ce qui vient d'ailleurs en général, est-ce que c'est très utile? Je suis pas persuadé d'en investir.
Bah, je pense qu'à Marseille, c'est utile là. Par exemple,
dans un vestiaire, ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire ce qui vient, en gros, on parle tous de la même chose, de la presse ou des supporters.
Bah, je pense que ça les porte.
Dans un vestiaire, moi, je pense que c'est beaucoup plus efficace quand t'as une vraie hiérarchie, un dirigeant qui descend et qui vient de parler, que tu le respectes, ou un coach que tu respectes et qui te le dit. Je pense que ça a beaucoup plus d'effet.
Okay. Yann, merci d'être venu au 32-16.
Yann, on se rappelle à la 38e journée, on verra si qui a eu raison ou tort.
Les questions de l'after dans un instant. Pogba, Wenger, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va peut-être voir Lo Celso, Areola. On parle de tout ça dans quelques secondes. Restez avec nous dans l'after sur RMC et sur BFM Soir.
RMC, le super football show. L'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Pierre Dupont, avec Daniel Riolo, c'est l'after jusqu'à minuit, comme tous les lundis, sur RMC, en simultané sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Également, les drôles de dames à partir de 23h, avec des avis tranchés sur Iniesta, sur l'avenir du poste d'entraîneur à Arsenal. Mais tout de suite, les questions de l'after. Alors Daniel, tu as commandé ta question, puisque donc tu veux parler de Pogba. Pogba, vous êtes-il convaincu? Vous a-t-il plu hier? Donc alors, il était l'invité du CFC.
Mais il avait pas besoin ni de me convaincre, ni de me plaire. En fait, moi, j'ai trouvé...
Qu'est-ce que t'attendais, alors?
On le voit pas beaucoup.
Est-ce que t'as l'impression de mieux le connaître?
Pas forcément, mais en fait, je trouve que c'est... D'abord, j'ai été gêné, parce que...
Pourquoi?
Oh, putain, ses réponses et tout, son attitude...
Moi, je l'ai pas vu, monsieur, je vais être honnête avec vous. On préparait le match.
La façon dont il est habillé, type Dalai Lama et tout. Donc d'abord, je trouvais un petit peu gênant ses réponses, son attitude, cette espèce d'humour pas complètement maîtrisé et tout. Puis après, je trouvais ça facile. En fait, je me souviens pendant longtemps, à une époque, je lisais le magazine Surface.
Ouais.
Oui. Je suis absolument pas la cible. Je pense que je l'avais même dit aux auteurs de ce magazine. Je suis pas la cible et a priori ça m'intéresse pas. C'est pas pour moi. Je vois pas ce que je vais apprendre et tout. Mais pourtant je me forçais parce que j'estimais que malgré tout on pouvait, vu qu'ils étaient très avenants avec les joueurs de foot, qu'il est
apprendre des choses que les joueurs de foot n'auraient pas dit ailleurs.
Il les faisait s'habiller. Voilà, exactement, pour comprendre comment ils pensent.
Les joueurs parfois se lâchent plus facilement.
Moi hier soir, en CFC, j'attendais pas qu'on lui rentre dedans à Pogba. Il y en a plein qu'on dit sur les réseaux sociaux, en gros, ils lui ont ciré les pompes. Mais non, mais on s'en fout. Il y a différentes façons de procéder, il y a différentes façons d'interviewer un mec ou pas. Tu reçois un mec comme ça, de toute façon, qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Tu vas aller le secouer, mais il te répondra pas.
Oui, oui.
Qu'est-ce que tu vas aller lui demander pour le mettre en difficulté? Il n'y a pas à mettre les gens forcément en difficulté.
Donc, ce qui aurait été intéressant pour toi, c'est quoi? C'est d'aller chercher autre chose que...
Non, moi, je pense qu'il n'y avait rien à chercher. Je pense que déjà, c'est un type qu'on n'entend pas beaucoup. C'est quand même une star du football français.
Parce que tu regardes pas la POC série.
Voilà. Mais parce que d'habitude, il est dans le contrôle de sa communication. Ouais. Donc, il se met en scène. Donc, c'est intéressant déjà de voir un mec dans les mises en scène pour essayer de comprendre comment il est. Comprendre ensuite son attitude qui va être sur le terrain, comment lui, il se voit. Et on voit bien qu'il se voit... Il se voit dans une autre galaxie, le mec, quand même, quoi. Donc, c'est humainement, c'est enrichissant d'apprendre comment lui il fonctionne. Après, ça veut pas dire qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on critique pas ou quoi.
Je suis pas sûr que ce soit dans une émission comme ça que tu puisses aller chercher ça, toi.
Non, mais tu ne vas pas le chercher par la question.
C'est des avant-matchs, c'est des...
Non. Mais non, là, quand tu l'écoutes, tu comprends. Quand le mec, il continue de dire, il faut pas nous critiquer, dans les autres pays, il y a pas de critique et tout. Mais tu vis dans une autre galaxie, mec. Tu vis ailleurs, t'es pas dans le même monde que nous.
Il allume pas la télé,
pour dire qu'en Angleterre, qu'en France, les médias sont plus durs qu'en Angleterre ou en Italie où il est passé.
C'est qu'il lit pas les journaux.
Donc, je trouve que ça a quelque chose de fascinant quand on a un mec de cette importance, de cette dimension dans notre foot. Vous voyez, après, que tu vas lui poser comme question, t'es embrouillé avec Mourinho? Ils l'ont fait. Moi, je trouvais, ils ont fait leur taf. Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Évidemment qu'il va dire, non, tout va bien avec le coach, évidemment, mais c'est, à la limite, presque, je m'en foutais.
Non, mais disons que tu passes pas sur le grill un joueur comme ça, en fait.
Mais ça sert à rien, il te répondra pas. De toute façon,
je pense qu'il y a des clients que t'interviews de manière plus musclée que d'autres. Un entraîneur, un président, là tu peux arriver avec des dossiers, des questions
joueur,
et le mettre dans les cordes.
Voilà, c'est très compliqué.
T'attends pas la même chose.
Très compliqué. De toute façon, est-ce qu'il est capable de répondre de cette façon? Et puis il va être dans ses codes. En revanche, observer le phénomène, j'ai trouvé ça assez fascinant.
Très bien.
J'étais gêné. Ça vaut le coup que je le regarde ou...
Oui.
Franchement, tu peux vivre sans, vraiment.
Ouais, donc mais, je vais pas perdre mon temps. Mais t'es là,
dans mais si, en plus, toi, t'es agent et tout, tu vas peut-être être confronté à des nouveaux
Pogba
et
tout, faut
que
tu les comprennes. T'es obligé de les comprendre, les gars.
Oui, tu peux pas souffler comme ça, Pierre.
Non,
j'allais dire. On va te reprendre ta carrière en
main. Non, j'allais dire, le jour où j'aurai un Pogba, je chercherai à le comprendre.
Moi, demain, si je veux
devenir. Non, mais t'auras peut-être un Pogba.
Non, mais c'est vrai, t'as raison dans ce que t'as dit. Moi, demain, si je veux devenir agent. Mais il faut absolument que tu comprennes exactement comment les mecs fonctionnent.
Mais c'est une obligation. Tu sais déjà comment ils fonctionnent.
Non, mais toi, je dis pas toi, je dis moi.
Mais même toi, tu sais déjà comment ils fonctionnent, les mecs.
Non, pas tous. D'abord, ils sont pas tous pareils.
Mais il y a des codes qui sont communs.
Il y a des codes qui sont communs. Le joueur qui joue en Angleterre, qui a un certain salaire, réagit différemment par rapport à un autre. Il y a des codes, il y a des catégories, il y a des classes sociales. Dans les joueurs de foot, il y a des classes sociales.
Il y a des personnalités,
des éducations différentes. Et là, quand je le vois hier, il est formidable, mais le mec il est pas sur la même planète que nous.
Mais si on enchaîne, autre question de l'after, Arsène Wenger, on en a parlé tout le week-end, est-ce que ça ferait un bon directeur sportif pour le PSG?
Bon, je laisse Daniel répondre, t'as déjà eu ma réponse.
Oui, dans Team Dugas, ça m'a dit. Oui, parce qu'on a, quelques infos pour dire que, bon, évidemment c'est pas fait, mais possibilité à ne pas exclure.
Mais non, mais moi, qu'au moment où ce mec prend sa retraite,
oui,
on dise...
Il l'annonce parce qu'il l'a même pas encore prise.
Il y a un bilan.
Il l'annonce.
Bon, tu dis OK, bravo.
Prend pas sa retraite, hein, il quitte Arsenal.
Voilà, bah, il quitte Arsenal. Bah, comme il y a passé de nombreuses années, t'es obligé de dire bon ben clairement t'as apporté énormément de choses à ce club et même au football anglais. Mais depuis 12 ans maintenant, t'es en régression. Et toi-même, tu n'apportes plus grand-chose. Et t'es même un petit peu, je trouve un peu déphasé par rapport au foot. Bon ben voilà, ça aussi il faut le dire. Donc je veux bien dire bravo, je veux bien dire c'est formidable, Arsène, hein, mais il y a aussi une lucidité à avoir sur les 10 dernières années, 12 dernières années de sa carrière. Allez, on va dire 10. Certes, il y a eu quand même quelques petits titres, mais bon, OK. Mais il est plus au sommet, quoi. Il est peut-être déphasé comme entraîneur, mais pas comme manager.
Ouais, mais moi, ce qui me dérange,
mais t'as vu comment il a managé Arsenal? Il était manager d'Arsenal.
Oui, mais il était entraîneur aussi.
Non, mais manager, on veut parler de ses recrutements, des départs, de ce qu'il a fait.
C'est ce que j'ai dit cet après-midi.
Hein, honnêtement.
Il y a quand même quelque chose, je veux bien que
le PSG aille le chercher. Mais je pense que c'est une erreur. Je ne le ferai pas.
Et il y a autre chose. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que une fois de plus au Paris Saint-Germain, on va remettre
d'un an, on prend les restes des autres
et on va prendre quelqu'un.
Moi, j'ai énormément de respect pour ce qu'Arsène Wenger fait.
Il
s'agit pas de ça.
Sauf qu'on n'a aucune idée de ce qu'il pourrait faire en tant que directeur sportif. Et encore, la fonction est plus large. Ça correspond pas du tout à son rôle.
Les recrutements, la façon dont il dépensait l'argent, ce qu'il a fait. Mais
non, mais tu vois.
Et puis c'est lui qui viendra aux conférences de presse quand il y aura le feu, parce que Tourelle ne va...
Normalement, oui.
On connaît le caractère de Tourelle, il va accepter une remarque de Wenger avec tout le respect qu'il lui devra.
Visiblement, ils s'entendent bien. C'est les infos
qu'on a eu aujourd'hui. Ils s'entendent bien parce qu'ils bossent pas ensemble.
Oui, bah donc qu'est-ce que fera Wenger? Le recrutement?
Il fera directeur sportif.
Ouais, donc recrutement et directeur sportif.
Et présence au quotidien.
L'autre facette, c'est ce que n'a pas fait Antero. Oui, c'est-à-dire régler évidemment et éventuellement les
conflits, les problèmes. Il va aller voir Neymar, il va lui dire t'arrêtes, t'es bêtise et tout. Ouais, ça va être sympa.
Ou venir devant la presse pour éteindre les feux qui n'ont pas été éteints du tout cette année dans la communication défaillante du PSG. C'est-à-dire toutes les mini-crises qu'il y a eu, les déclarations des joueurs et tout. Mais c'est pas que je ne sens pas capable, mais il va vraiment faire ça.
C'est pas, je sais pas, et en plus, on y est même pas.
Tu nous poses une question en très
Écoutez, on ne sait pas encore. Voilà. Et
Philippe Auclair nous a bien dit, et il a parlé un petit peu avec Wenger hier, qu'il était pas du tout enclin à basculer comme ça, qui voulait rester encore un peu près du terrain, etc.
Pas sélectionneur et tout. Bon, on verra. Alors là, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous êtes capable de faire deux questions, deux réponses?
Est-ce qu'on a des billes sérieuses? Parce que je veux
bien. Bien sûr qu'on a des billes sérieuses. Je crois que j'aurais parlé de ça sinon.
Non, mais qui va venir en PSG?
Il y a des bruits.
Non, mais
on a des infos. Ça se tourne autour.
C'est pas parce que
on est au tout début des discussions.
On en revient à une discussion de la semaine dernière avec nos invités jeudi soir, mais c'est pas parce que à un moment on décide de raconter une histoire et que le quotidien, le seul quotidien de sport en France, décide de raconter une histoire.
Nous avons nos infos. Si on l'aurait pas fait, Daniel.
J'aimerais bien une bonne fois pour toutes,
oui,
qu'on soit pas en charrette,
mais
derrière et que on dise vraiment ce que nous on sait.
Mais on n'est pas en charrette, je te le dis. On a nos infos, on les a sorties, c'est sur rmcsport.fr.
Ah ouais, bah, je sais pas, je viens d'entendre que Philippe Auclair a dit comme manager, c'est et peut-être pas son truc.
En plus de Philippe, on a d'autres gens qui travaillent à la rédaction, en qui je fais une confiance
aveugle. Ça n'empêche pas qu'il y ait peut-être eu des contacts entre le Paris Saint-Germain et Arsène Wenger.
Mais oui.
Mais que Wenger
ne soit pas en question.
Franchement, j'espère que Wenger va venir parce qu'après tout ce que j'ai lu et entendu, je veux dire à un moment niveau boulette sur ce qui se passe au PSG.
Non, on dit pas que c'est fait.
Les casseroles qu'il y a, c'est.
Ah ouais. L'info c'est qu'il y a eu des contacts.
Donc le jour où il prend sa retraite,
l'info c'est qu'il y a eu des contacts, c'est ça. En même temps, ces gens-là,
c'est un coup de fil, c'est quoi.
Ils sont toujours en contact de toute manière. Ils s'entendent très bien, paraît-il, Arsène Wenger et les Qataris. Ouais. Donc,
faut pas s'énerver dans ces cas-là.
Bon, tes deux questions, 30 secondes, c'est mort.
Non, c'est fini, on n'a plus le temps.
C'était quoi, vas-y.
Les drôles de dames arrivent.
C'était quoi?
Vous préférez Lille-Metz ou Montpellier-Saint-Etienne?
Bah Lille-Metz.
Bah oui, je sais. Toi, tu voulais ça le dimanche à 21h.
Bah oui.
Bon, Daniel, on l'a perdu. Il reviendra pour les drôles de dames dans quelques secondes. À tout de suite. Stop, c'est fini. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'After Foot.